va étudier Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 à 12 en quelques instants. Mais nous, les êtres humains, nous recherchons naturellement, je crois, ce qu'il y a de mieux pour nous dans la vie, n'est-ce pas? Mieux vaut le travail que le chômage. Mieux vaut une bonne affaire qu'une escroquerie. Mieux vaut le beau temps que le mauvais temps, n'est-ce pas? Mieux vaut le plaisir que la douleur. Mieux vaut une maison dans la campagne qu'un appartement dans un quartier qui craint. Nous recherchons tous ce qu'il y a de mieux. La meilleure assurance santé, les meilleures écoles pour nos enfants, les meilleures possessions. Dans les couples ou entre colocataires, nous cherchons comment mieux vivre ensemble. Les débats font rage depuis longtemps par rapport à la meilleure façon de charger le lave-vaisselle, n'est-ce pas? Ou la meilleure façon d'accrocher le rouleau de papier de toilette. Vaut-il mieux que le papier se déroule par devant ou par derrière? C'est une grande question avec les implications philosophiques et économiques et scientifiques. Je raconte des bêtises là, mais plus sérieusement, nous recherchons tous ce qu'il y a de mieux. Les hommes politiques se disputent pour savoir quelles positions seraient les meilleures pour eux, pour leur parti, pour ceux qui les financent. Et des fois aussi, ils pensent à ce qui serait le mieux pour le pays aussi. Les économistes recherchent la meilleure solution à toutes les difficultés monétaires du monde. Et c'est aussi la recherche d'une meilleure option, d'une meilleure théorie, d'une meilleure explication qui sont le moteur de la science. Mais dans notre recherche de ce qu'il y a de mieux, il y a aussi des questions plus importantes, plus pressantes. Par exemple, comment mieux vivre au cours de cette existence qui est courte et qui est rempli d'épreuves et des frustrations. Dans quelques instants, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 à 12. Et dans ce passage, l'auteur de l'Ecclésiaste, qu'on appelle le Coëlète, compare plusieurs choses dans la vie afin de nous montrer comment mieux vivre. Dans ce passage, vous allez remarquer l'emploi de l'expression « mieux vaut » à plusieurs reprises. L'auteur de ce texte veut nous aider à trouver ce qu'il y a de mieux. On peut résumer l'idée principale en quelques mots. Mieux vaut mieux vivre. Mais comment mieux vivre? C'est quoi le mieux? Donc on va lire maintenant Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 à 12. Bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans cela se trouve la fin de tout homme, et le vivant en prend conscience. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut écouter le reproche du sage qu'être homme à écouter la chanson des insensés, comme les sarments crépitent sous la marmite. Ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression affole le sage et les cadeaux font perdre le sens. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci. Car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. La sagesse vaut mieux qu'un héritage, et même davantage pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous te prions afin que tu illumines le chemin devant nous, Seigneur. Aide-nous dans notre compréhension, dans notre application de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de réfléchir à ce passage, je vous rappelle que ce livre, le livre de l'Ecclésiaste, raconte les idées d'un gars qu'on appelle le Coëlète. Le Coëlète. Et le Coëlète était un roi philosophe. Et bien que le texte n'identifie pas le Coëlète par son nom, on a des raisons de penser qu'il s'agissait du roi Salomon. Au début du livre, le Coëlète parle de la vie sous le soleil, c'est-à-dire d'une vie où Dieu ne rentre pas en compte. Le Coëlète nous montre le désespoir d'un monde sans Dieu. Il nous montre la conclusion logique de l'athéisme, de l'agnosticisme, du déisme. À maintes reprises, nous retrouvons l'expression « vanité des vanités », « tout est vanité ». L'auteur de l'Ecclésiaste nous montre qu'une vie sans Dieu aboutit à la vanité. Il part d'une existence malheureuse sous le soleil. Le ton général est sombre, chaque mouvement est finement ciselé et chaque mot est porteur d'un sens précis et réaliste en ce qui concerne la réalité du monde sous le soleil. Et quand on arrive au chapitre 7, le Coëlète continue de conférer sa sagesse à ses lecteurs, mais cette fois par une série de proverbes. Maintenant, il veut nous aider à mieux vivre dans cette vie courte et dure. Mieux vaut mieux vivre. Voilà ce qu'il veut nous dire. Dans la première partie de ce texte, il nous donne des conseils pour savoir comment se préparer pour le jour inévitable de la mort. Puis, dans la deuxième partie de ce texte, il nous donne de la sagesse pour nous aider à mieux vivre dans le présent. Et finalement, il nous parle des mérites de la sagesse en elle-même. Regardez donc la première partie, versets 1 à 6. Au verset 1 à 6, le Coëlète dresse un contraste entre le rire fou et irréfléchi, d'une part, et d'autre part, la sombre réalité du fait que nous sommes mortels. Ces versets nous rappellent que mieux vaut le jour de la mort, mieux vaut le deuil, mieux vaut le chagrin, le visage triste, le reproche du sage, mieux vaut toutes ces choses plutôt que la naissance, le festin, tout le rire des insensés. Mieux vaut mieux vivre, nous dit le Coëlète. Il ajoute, mieux vivre, c'est se préparer maintenant pour son avenir en faisant face de la bonne manière aux réalités difficiles de la vie, c'est-à-dire aux moments qui ont le plus de choses à nous enseigner. Le Coëlète commence par ce proverbe, bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée. Bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée. Alors ce proverbe qui nous incite à avoir une bonne réputation semble déconnecté des versets qui suivent. Mais en fait, dans le contexte qui parle de la mort et de la fin de vie, ce verset soulève la question du souvenir qu'on aura de nous. Quand l'oraison funèbre sera prononcée, quand on fera des témoignages sur la personne décédée, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on dira? Jonah Haddad est mort? Ah oui, je me souviens de Jonah. Quel pauvre type. Au moins, ce n'est pas une grande perte. Après tout, il n'a pas fait grand-chose de sa vie et maintenant, on est débarrassé des commentaires stupides qu'il faisait sur tout et n'importe quoi. Toutes ces bêtises. J'espère que ce n'est pas ce que diront les gens à propos de moi. Mais vous voyez que si vous vivez d'une manière qui mérite une bonne renommée, vous pouvez approcher à la fin de votre vie avec plus de contentement. C'est ça le sens de ce premier verset. Vous n'avez pas gaspillé votre temps sur les festins des insensés, ni sur le rire de la folie, ni sur les choses vaines. Les versets qui suivent nous incitent à nous préparer pour la réalité de la mort. Le Qohelet cherche une vision réaliste de la vie et de la mort, une vision complète et cohérente de notre existence sur terre. Au verset 2 à 6, il nous dit que le rire ne nous aide pas à nous souvenir de qui nous sommes, ni de ce vers quoi nous allons. Nous mûrissons, en fait, par le fait de réfléchir à notre mortalité. Nous grandissons en étant exposés à la souffrance et au deuil. Nous apprenons beaucoup de choses en assistant à des funérailles, surtout quand le décédé était un croyant, que nous pouvons célébrer la vie d'un chrétien, à la fois en pleurant, bien sûr, et en chantant les louanges d'un Dieu qui sauve. La tristesse de la mort nous rappelle les promesses de Dieu et notre espérance pour l'avenir. Ça nous rappelle que quand on célèbre la naissance de Jésus, comme à Noël, par exemple, on pense aussi à la raison pour laquelle il est venu, à savoir pour mourir à la croix. Les versets 2 à 4 nous invitent à entrer dans la maison du deuil. Ces versets nous invitent à réfléchir avec sagesse sur notre propre mort imminente. Ils nous invitent à pleurer et en pleurant à recevoir la consolation de Jésus comme promis dans le sermon sur la montagne. Le verset 3 nous dit qu'un visage triste est bon pour le cœur. Et le raisonnement derrière cette affirmation, encore une fois, c'est l'idée qu'il y a des leçons importantes à tirer de notre mortalité, de nos souffrances. Bien sûr, ça semble contredire l'idée d'après laquelle le rire est un bon remède face à l'absurdité de la vie, une idée déjà mentionnée dans le livre de l'Ecclésiaste. Mais en réalité, les versets 1 à 6 nous montre l'autre côté de la médaille. Le fait que le rire ne change pas ce qu'il est inévitable. Il nous montre que trop souvent, nous avons une sorte d'aversion à la contemplation de notre difficulté, nos difficultés et nos souffrances. Mais notre vie ne doit pas être caractérisée par le rire insensé. La sagesse que l'on gagne à travers les épreuves vaut mieux que le rire des insensés. En nous donnant ces conseils pour notre avenir, le Qohelet nous rappelle que mieux vaut mieux vivre. Il nous montre le meilleur chemin. Alors, dans la deuxième partie de ce texte, nous découvrons quelques proverbes qui nous aident à mieux vivre dans cette courte existence. Cette fois, par rapport à notre condition présente. La sagesse du Qohelet nous rappelle de ne pas suivre le chemin facile. Au verset 7, le Qohelet nous avertit contre les pots de vin et contre les usages malhonnêtes de l'argent. Il a déjà parlé des difficultés que nous subissons quand un gouvernement ou un roi nous opprime dans des autres chapitres, mais maintenant, il nous avertit de ne pas devenir nous-mêmes des oppresseurs. C'est un chemin facile, mais qui ne vaut pas le coup pour nous. Ensuite, au verset 8, il nous exhorte à persévérer. Le Qohelet peut dire que l'aboutissement vaut mieux que le commencement, parce que l'aboutissement fournit une vision complète de nos projets. Même dans le contexte des versets précédents, l'aboutissement de notre vie sur terre fait partie de ce que nous devons vivre. Imaginez un charpentier qui démarre la construction d'une maison, mais qui perd l'envie de la finir. Imaginez un très bon écrivain qui ne conclut pas ses romans. Mieux vaut la patience et la persévérance que le chemin facile. Cette exhortation à la persévérance est un message qui s'applique surtout aux chrétiens. L'apôtre Paul a encouragé les croyants de la ville de Philippe en leur disant « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Autrement dit, le Dieu qui nous sauve en Jésus nous appelle à continuer dans la foi afin de bien finir la course de cette vie. C'est-à-dire persévérer dans la vie chrétienne. Ce qui est possible grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Mais le Colette continue en nous disant aussi d'éviter la colère et le mécontentement. Ces choses ne nous aident pas dans cette vie. Le verset 9 parle d'un manque de maîtrise de soi chez quelqu'un qui chercherait toujours le chemin facile. Le mécontentement qui est mentionné ici entraîne l'attitude qu'on voit au verset 10, qui affirme que le passé vaut mieux que le présent. C'est l'idée que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça parle d'un genre de fuite devant la réalité et de la folie des gens qui cherchent toujours le rire, toujours la voie facile, toujours quelque chose qui est hors de portée. Le Colette nous montre que mieux vaut la sagesse dans cette vie présente que ce chemin plein de folie. Enfin, dans la troisième et dernière partie de ce passage, les versets 11 et 12 nous offrent quelques mots qui unifient tout ce qui précède. La sagesse nous aide à répondre aux défis de la vie et de la mort. Comme l'argent qui nous donne la sécurité financière, de même la sagesse nous donne un genre de sécurité. La sagesse vaut mieux qu'un héritage, dit le texte. En fait, il emploie le mot, le Colette ici, il emploie le mot héritage dans le sens d'une récompense monétaire. Il veut dire que la sagesse est un héritage, que c'est le meilleur héritage. C'est comme quelque chose de valable laissé par un membre de la famille, avec l'intention que ce don précieux reste dans la famille et serve les besoins de la personne qui en a hérité. C'est quelque chose de très, très important. Quand j'étais plus jeune, je crois que j'étais au collège, mon arrière-grand-mère est décédée. Et je me souviens d'un jour, juste après sa mort, un camion est arrivé devant notre maison. À l'arrière de ce camion, il y avait héritage de ma famille, mon héritage. C'était un congélateur rempli de fruits de bois congelés. C'est tout. Voilà, j'ai bénéficié de tartes de framboise à la framboise et aux myrtilles pendant les 5 années qui ont suivi. J'ai mangé mon héritage. Je sais que cette illustration est un peu nulle, mais c'est pas très, très grave. Je sais qu'on peut imaginer, en fait, les héritages beaucoup plus intéressants, n'est-ce pas? Beaucoup plus intéressants qu'un congélateur rempli de framboises. Des héritages comme des maisons, des grandes sommes d'argent, n'est-ce pas? Mais l'image de que ce texte nous donne, c'est que la sagesse est quelque chose qui est transmis, héritier, reçu de la part de Dieu. Cette sagesse de Dieu nous fait mieux vivre, avec une meilleure conscience de notre mort imminente, une meilleure appréciation de notre situation présente. Et si nous trouvons cette idée difficile, c'est parce que dans sa sagesse, Dieu a frappé de folie la sagesse du monde, comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 1. Ainsi, la sagesse de Dieu se voit surtout en Dieu le Fils, qui a donné sa vie pour nous, et qui régénère et qui transforme l'esprit de l'homme s'il se met sa confiance en Dieu. Mieux vaut la sagesse de Dieu que toute la sagesse des hommes insensés qui cherchent en vain la sagesse en eux-mêmes. Alors pour terminer, nous pouvons revenir au début de ce passage et poser la question, est-ce que nous avons une bonne renommée? Pas juste aux yeux des hommes, mais aux yeux du ciel, si j'ose dire. Quel souvenir aura-t-on de nous? Nous devons tous nous poser la question, ma vie est-elle caractérisée par la sagesse ou par le rire vain et la folie? Est-ce que je cherche ce qu'il y a de mieux, notamment dans ma relation avec Dieu et dans mes relations avec les autres? Est-ce que je laisse la vie et la mort m'enseigner tout ce qu'elles ont à m'enseigner pour que je puisse à mon tour encourager mes frères et mes sœurs en Christ? Ce texte nous incite donc à mieux vivre dans la sagesse. Ce qui veut dire pour nous les croyants, mieux vivre dans la connaissance de Jésus, de son œuvre à la croix. Ce texte nous rappelle qu'en Christ, ce qu'il y a de mieux, c'est déjà là. Et qu'en Christ, ce qu'il y a de mieux arrive aussi encore. Quand nous avons la sagesse de Dieu, quand nous avons une relation personnelle avec la source de la sagesse, qui est Dieu lui-même, alors la vie présente n'est pas quelque chose d'effrayant, et la mort n'est pas quelque chose de répugnant. Mieux vaut mieux vivre dans la connaissance de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de la sagesse que tu nous confères et des leçons que nous apprenons dans cette vie parfois difficile. Aide-nous, Seigneur, à rechercher une meilleure vie en toi, une meilleure attitude vis-à-vis de ce que nous rencontrons dans cette vie. Nous te remercions pour la croix de Jésus, grâce à laquelle nous avons une espérance pour l'avenir. Au nom de Jésus. Amen.